Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous pour une autre émission de Vivement les femmes. Merci à vous de nous écouter sur les ondes de Canal M. Notre invitée d'aujourd'hui nous parvient de la ville de Sherbrooke. Elle est leader dans sa communauté. Il s'agit de Mercedes Orellana, directrice du service d'aide aux Néo-Canadiens, poste qu'elle a occupé pendant plus de 20 ans avant de prendre sa retraite il y a seulement quelques mois. La beauté de son histoire, originaire du Salvador, elle a immigré en 1986 et à son arrivée, elle a été accueillie par un bénévole du service d'aide aux Néo-Canadiens. Quel juste retour du balancier! Bonjour Mercedes Orellana.
Bonjour Marjorie.
Alors, bienvenue à Vivement les femmes, parce qu'en plus, vous avez fait la route de Sherbrooke à Montréal pour venir en studio. Donc, je vous remercie, j'apprécie beaucoup.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Donc, Mercedes, vous êtes d'origine salvadorienne. Vous êtes arrivée au Québec. Dites-nous dans quelles circonstances et puis quand?
En fait, c'était dans les années où la guerre était encore présente au Salvador. Mm-hmm. Et nous avons vécu un événement difficile, violent, envers un de nos enfants, l'aîné, qui a fait en sorte que c'était l'élément déclencheur pour prendre la décision de quitter, même si mon conjoint et moi, on travaillait aussi, notre vie était faite, mais la sécurité n'était plus là. Donc, pour la sécurité de nos enfants et la nôtre, on a décidé de rejoindre ma mère qui avait été déjà ici à Sherbrooke. Mm-hmm. Et on est arrivé dans le cadre du programme de regroupement familial au niveau de l'immigration. Donc, on est arrivé un jour où est-ce qu'effectivement il neigeait un petit peu. On est resté une nuit ici à Montréal avant de quitter pour aller s'installer à Sherbrooke et rejoindre ma mère. Oui, avec mon conjoint puis mes trois enfants.
Donc, vous êtes arrivé, c'était la saison d'hiver?
Oui, c'était le 26 mars. On est sorti le 25. On a pris l'avion le 25 mars, mais on est arrivé le 26 à Sherbrooke. Okay. Effectivement, c'était la fin de l'hiver. Il faisait moins un, mais je me rappelle, on est passé environ une heure devant la fenêtre à l'hôtel ici à Montréal pour voir les flocons de neige qui tombaient. Tellement on trouvait beau parce qu'on n'avait jamais vu la neige avant.
Ah non, c'est vrai. C'est quelque chose de voir ça au début. Puis, comment s'amorce votre vie, la nouvelle vie à Sherbrooke? Comment elle s'amorce?
On a été chanceux, je pense, parce que ma mère avait déjà préparé notre arrivée en termes de logement. Okay. J'ai pas eu à vivre dans un hôtel ou dans un hébergement temporaire. On avait déjà un appartement que ma mère avait loué. Et tranquillement, les enfants ils ont été rapidement inscrits à l'école pour commencer la francisation et l'intégration aussi. Nous avons dû attendre avec mon conjoint un petit peu. On a commencé un cours à temps partiel de français avant de commencer la francisation à temps plein. Après ça, les premières années, la première année, c'était vraiment consacré à apprendre la langue. Oui. Par la suite, on a fait un retour aux études tous les deux aussi pour penser à notre retour au niveau professionnel aussi.
OK. Puis vos enfants étaient très jeunes?
Oui, ils avaient, c'est trois garçons. Le plus vieux, il avait 12 ans, le deuxième, 10, puis le troisième, il y a eu 6 ans quand on est arrivé ici.
OK. Puis eux, ils n'ont pas eu de difficultés, ils ont tout de suite appris la langue, c'est beaucoup plus facile, je crois.
Oui, bien, ils ont eu des difficultés, mais je pense qu'en étant jeunes, on passe plus souvent aussi par les jeux ou par les loisirs pour se comprendre. Mm-hmm. Et ils ont appris rapidement parce qu'en dehors des cours de français, il y avait aussi les activités parascolaires. Oui. Il y avait aussi les camps d'été ou les sports, ce qui donnait l'occasion de pratiquer le français, d'écouter la langue aussi davantage que nous comme adultes.
OK. Je sais que vous avez dit que c'est parce que votre mère était déjà établie à Sherbrooke, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est beaucoup plus facile de s'installer en région qu'à Montréal, selon vous?
C'est un peu difficile parce que de faire la comparaison étant donné que je n'ai pas été installée ici à Montréal. Mm-hmm. C'est juste des histoires que j'entends. Mon intégration à Sherbrooke s'est bien passée parce que je pense que j'avais déjà ma mère qui m'a ouvert beaucoup de portes. J'avais aussi reçu le service du service d'aide aux Néo-Canadiens, de la personne qui travaillait puis qui était moitié bénévole, moitié employée. Ça nous a aidé parce qu'on était aussi dans un milieu où est-ce qu'on avait le français aussi comme langue commune avec d'autres immigrants qui venaient d'autres pays. La ville est plus petite, même si On a quand même tous les services, accès à beaucoup de services sauf le métro. Mm-hmm. Mais par contre, je pense que le fait d'être dans un environnement francophone, plus petit, avec quand même beaucoup de services, ça permet d'être moins perdu dans une grande ville comme Montréal. Puis moi, je venais d'une grande ville à San Salvador, donc je ne voulais pas nécessairement continuer à vivre dans une grande ville où il y a d'autres enjeux, d'autres... Et il y avait aussi la question de la sécurité qui était très présente dans notre esprit à l'époque aussi. Donc, on se disait dans une petite ville, ça va être peut-être mieux pour les enfants aussi que dans une grande ville comme Montréal ou Vancouver.
Mm-hmm. Puis, quelle sorte de service que vous avez reçu tout de suite du service d'aide aux néo-canadiens que vous avez après pris la direction générale? Mais c'était quoi les services que vous avez reçus?
Oui, à l'époque, c'était beaucoup de l'information du conseil. C'est surtout aussi de l'information par rapport à la vie à Sherbrooke, comment ça s'est passé, côté au niveau de la santé, au niveau de l'inscription des enfants aussi à l'école, au niveau de l'intégration comme telle, l'intégration sociale et culturelle beaucoup. Par la suite, c'était l'occasion de m'intégrer comme bénévole aussi. Donc, j'ai appris à connaître la mission de l'organisme. J'ai pas eu nécessairement un service par rapport à la recherche d'emploi parce qu'à l'époque, n'était pas nécessairement un service structuré. C'est venu par la suite.
Par la suite, OK. Oui. Donc, mais au début, c'était vraiment de l'information qu'on vous donnait.
Orientation beaucoup.
OK. Puis, je sais que vous avez fait aussi des études supérieures. Vous nous avez dit que vous avez 3 enfants. Comment ça a été, cette conciliation entre les études, l'intégration? Les jeunes enfants.
Puis la famille, c'était un effort de famille, je dirais. Je remercie beaucoup toujours mon conjoint puis mes enfants parce que sans leur soutien, je pense que ça aurait été plus difficile de réussir aussi, d'aller jusqu'au bout, même si j'avais comme objectif de finir mon baccalauréat, ma maîtrise, sans le soutien et la compréhension de mon conjoint puis mes enfants. Ça aurait été plus difficile. Donc, c'est sûr, ça a été des journées où est-ce que j'avais des nuits blanches pour remettre des rapports. Il y avait aussi, ou des travaux, des sessions. Il y avait la difficulté de la langue parce que j'avais juste fini la francisation. Puis tout de suite après, j'ai fait le saut pour dire, OK, je prends un cours pour vérifier si je suis capable de suivre le cours. Mm-hmm. Si oui, je m'inscris à temps plein avec plusieurs cours, ce qui était le cas aussi par la suite. Mais c'est sûr que le premier cours, c'était beaucoup plus difficile. Je prenais des notes en esténo parce que j'avais pris l'esténo en espagnol.
Ah,
et je traduisais après à la maison du espagnol au français avec un dictionnaire. Mais je me suis rendu compte que j'ai perdu trop de temps aussi, donc je me suis dit, je vais me lancer juste en français, je vais l'écrire comme je l'ai appris, puis après ça, je vais faire des corrections. C'est sûr que j'ai eu des collègues aussi à l'université, des amis que je me suis fait qui m'aidaient au niveau de la compréhension du français. Si je pense à, par exemple, Louise Bourgault, qui est la directrice de la Chambre de commerce de Sherbrooke aujourd'hui, c'est un collègue que j'ai eu à l'université, puis qui m'a aidé à ce niveau-là beaucoup aussi, que je la remercie, je l'ai appréciée beaucoup.
Ah oui. Mm. Puis, je sais que vous deux, vous êtes votre mari et vous avez repris les études. Est-ce qu'il a fallu faire un choix qui commençait avant? Est-ce que vous avez été en même temps?
Non, on a commencé en même temps.
En même temps?
En même temps, on a décidé. Oui, les enfants étaient à l'école. Nous, on était à l'école aussi comme adultes. Mm-hmm. Donc, on a fait chacun ses choix en fonction de ses intérêts.
OK, OK. Puis, on dit... Parfois, je sais, en tout cas dans la culture haïtienne, parfois on remarque qu'au niveau de l'intégration, les femmes s'intègrent beaucoup plus lorsqu'il y a le parcours de l'immigration. Est-ce que dans votre cas, vous avez trouvé que vous êtes intégrée plus rapidement que votre mari?
Oui. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que les obstacles ou les défis que chaque personne rencontre dans son parcours post-migratoire, sont différents. Mais effectivement, la société au Québec et au Canada, je pense qu'il y a énormément de services, de soutien aussi qui est offert aux femmes. Il y en a beaucoup moins pour les hommes, qu'ils soient en difficulté ou non. Donc, ça peut aider aussi parce que la femme aussi a peut-être tendance à aller chercher de l'aide quand elle en a besoin. Elle va pas garder trop longtemps les problèmes, donc on va crier au secours plus rapidement,
plus
je
rapidement.
Pense.
Oui. Tandis que les hommes restent beaucoup plus fermés, mais aussi, ce que j'entends aussi de ce que vous avez dit, vous aviez déjà une situation au Salvador, donc des professionnels.
Exact.
Et ça aussi, c'est un deuil à faire.
Tout à fait.
Est-ce que votre mari a pu le faire
Ça a pris du temps. Oui. Non, je pense que je l'ai fait plus rapidement.
Plus rapidement,
que lui.
Hein, oui.
Lui, il l'a fait quand même aussi, mais il était capable de voir rapidement aussi. Il m'a dit, c'est vraiment une société qui appuie beaucoup.
Oui.
Plus les femmes. Je t'encourage à aller de l'avant, effectivement, vas-y. Profite de ce que la société t'offre comme opportunité aussi. Mm-hmm. Et lui, il a fait son bout de chemin aussi, mais peut-être que ça lui a pris un peu plus de temps aussi à surmonter les obstacles. Au niveau des études, son chemin était beaucoup plus parsemé d'obstacles que les miens. Je dirais, moi, j'ai décidé de commencer très rapidement à partir de la première année du baccalauréat, tandis que lui, à cause que ses études étaient déjà comme sur le point de finir au Salvador, on lui avait dit de commencer des cours pré-maîtrise, mais qui finalement, après, ne se sont pas avérés nécessairement pertinents. Il a dû recommencer, pour finir son bac.
Son bac,
son baccalauréat. Donc, il y a eu comme une perte de temps, je dirais, mm-hmm. avec des cours additionnels qui ne sont pas perdus en termes de connaissances, mais que côté intégration, il y a eu quand même un impact au niveau de son intégration professionnelle aussi dans le temps.
Dans le temps. Alors, ce qu'on retient bien, c'est le fait que lorsqu'on rentre en couple avec des enfants, ben, il y a toute cette, conciliation à faire avec toutes les difficultés, mais aussi ce dialogue entre le mari et la femme pour bien s'intégrer. Là, donc,
Et comprendre, même si on n'est pas en mesure de mettre des mots, comprendre ce qu'on est en train de vivre aussi, dans le fond, c'est vraiment une partie du processus d'intégration.
Oui.
On ne le nomme pas comme ça, mais c'est de prendre conscience, effectivement, que les enfants, ça va plus vite. Eux, ils peuvent traduire pour nous. Il y a un changement de rôle qui se fait parfois aussi entre le rôle des parents avec les enfants, parce que les enfants peuvent aller plus rapidement, comprendre plus rapidement le système d'éducation que les parents. Mm-hmm. Mais il ne faut jamais oublier qu'on reste toujours des parents.
Non, tout à fait. Alors, merci Mercedes. Nous allons nous arrêter pour écouter une chanson et on revient après.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
My Way de Frank Sinatra, une chanson qui traverse les décennies et que j'adore. Merci pour ce choix, Mercedes. Donc, je suis de retour avec Mercedes Orellana, directrice générale, nouvellement à la retraite du service d'aide aux Néo-Canadiens situé à la ville de Sherbrooke. Donc, Mercedes, vous venez de prendre votre retraite après 28 ans quand même passés à travers, au sein du service d'aide aux Néo-Canadiens, puis vous avez gravi aussi les échelons au sein même de cet organisme. Donc, dites-moi comment que ça s'est passé, tout le parcours que vous avez eu au sein de l'organisation.
Oui, en fait, c'est lorsqu'on finissait la francisation, il y a eu à l'été une personne, un bénévole du service d'aide aux Canadiens qui est venu nous inviter, un autre immigrant, Antonio, qui nous a invités à l'Assemblée générale annuelle du service d'aide aux Canadiens, en nous disant que si on était intéressé à devenir membre de la corporation, ça nous permettrait de nous impliquer socialement. Puis moi, je voulais justement avoir l'occasion de pratiquer mon français, de m'intégrer aussi. Et c'est comme ça qu'on est devenu membre de la corporation du service d'aide aux Canadiens, c'est-à-dire des bénévoles quand même. Et Orlando, mon conjoint, a été au conseil d'administration aussi comme trésorier pendant quelques temps.
Okay.
Moi, je m'impliquais comme bénévole terrain, plus avec Louis, qui était l'employé du service d'aide aux Canadiens et qui nous avait accueillis. Donc, j'ai fait partie du comité pour organiser des fêtes comme la fête de Noël pour les nouveaux arrivants. Tranquillement, j'ai commencé aussi à m'impliquer au sein du conseil d'administration plus tard, quand Orlando a quitté. Et il y a eu une opportunité d'emploi en 1993 pour commencer à établir les outils administratifs pour gérer la bande d'interprètes. Donc, je suis devenue employée en 1993. Et j'ai occupé plusieurs fonctions jusqu'à ce qu'on m'offre la direction aussi en décembre 1999.
Wow! Puis, quels sont les services en particulier qu'offre le service d'aide aux Néo-Canadiens?
Oui, en fait, on a tous les gros volets de l'accueil élargi, je veux dire. Donc, on accueille toutes les personnes immigrantes qui viennent s'établir à Sherbrooke au niveau de l'installation physique. Ça fait beaucoup de démarches administratives, recherche de logement, ouverture d'un compte en banque, inscription des enfants à l'école, etc. Il y a tous les liens avec les réseaux de la santé et de l'éducation. Un autre grand morceau aussi, c'est l'accompagnement dans la recherche d'emploi, où est-ce que quand les personnes sont déjà prêtes à s'intégrer, à chercher de l'emploi, mais il y a des conseillères en emploi qui vont les accompagner dans cette démarche. Il y a aussi un autre volet qui est la gestion d'une banque d'interprètes.
Okay.
Depuis 1993, elle est en vigueur, puis c'est une banque qui regroupe quand même environ 75-80 interprètes qui parlent une trentaine de langues différentes et qui vont desservir les institutions aussi, qui donnent des services aux personnes immigrantes allophones. Ensuite, il y a aussi des projets, différents types de projets aussi, comme pour devenir une ville accueillante. Donc, on fait des activités de sensibilisation auprès de la population. Il y a aussi les services de jumelage interculturel où est-ce qu'on va mettre en contact aussi des personnes immigrantes nouvellement arrivées avec des familles québécoises pour partager la culture de chacun aussi, puis développer des liens d'amitié.
Mm-hmm. Puis, c'est quand même beaucoup de services.
Oui.
Est-ce qu'une organisation comme ça, ça vit de subventions, de dons?
Oui, mais en fait, on a une structure financière variée, diversifiée, mm-hmm. mais principalement, c'est sûr que c'est les bailleurs de fonds. Principal, c'est le ministère de l'Immigration, de la francisation
okay, oui.
et de l'intégration. On a aussi un financement qui provient des Services Québec pour l'aide à la recherche d'emploi. Mais on a aussi d'autres sources de financement, un petit peu de la santé et l'autofinancement aussi. Donc, on fait des activités d'autofinancement dont je peux mentionner rapidement les 48 éditions du Buffet interculturel aussi.
Oui.
Et il est en remodelage. Ça va devenir sur une autre forme probablement dans le futur. Mais c'est quand même aider dons de la population aussi.
OK. Donc, alors, tous les services sont gratuits?
Oui, sont gratuits okay. pour les personnes immigrantes. Par contre, certains services ne sont pas gratuits si on parle du niveau de la formation pour la gestion de la diversité culturelle qui s'adresse plus à des entreprises qui embauchent une main-d'œuvre immigrante
oui.
ou des services de la banque d'interprètes pour les utilisateurs sont gratuits pour les personnes, mais parce qu'il y a quelqu'un qui paye, c'est l'institution qui adapte ces services pour donner un service à une personne allophone. Exemple, les CIUS de l'Estrie, qui, avec tout son corps de médecins, de travailleurs sociaux, des infirmières, ils ont besoin de communiquer avec des personnes allophones. Donc, mm-hmm. ils vont payer les frais d'un interprète pour être capable de s'assurer que la personne comprend bien le diagnostic ou le message ou l'information qu'il faut lui donner.
OK. Mercedes, vous avez passé 28 ans hein, au sein de cette organisation-là. Si je vous demande quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière?
Je pense qu'effectivement, c'est la mise sur pied du service de la banque d'interprètes qui est quand même actif aussi depuis 1993. Oui. On a aussi desservi pendant 8 ans la région de la Mauricie et centre du Québec.
Mm-hmm.
Et maintenant, on se concentre plus sur l'Estrie. Elle est un service qui est rodé, qui est expérimenté, structuré, qui est efficace et qui permet aussi un certain autofinancement à l'organisation. Je pense que ça aide concrètement à la communication entre une professionnelle d'une institution mm-hmm. et une personne allophone qui a besoin d'un service. Pour moi, c'est vraiment une belle réalisation aussi à laquelle j'ai contribué.
Ah ouais, mais en plus, moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire que ces interprètes sont payés, c'est pas du bénévolat.
Non, c'est des travailleurs autonomes.
Travailleurs autonomes. Puis eux, ils peuvent aussi être interprètes pour l'accueil.
Oui.
Mais aussi, je prends un exemple, un immigrant qui aurait besoin d'aller à la cour.
Oui.
Et se faire accompagner par un interprète.
C'est le ministère de Justice qui va faire appel à nous mm-hmm. ou la cour municipale, dépendamment de l'instance. Qui va faire une demande d'interprète. Et à ce moment-là, il y a une équipe qui s'assure effectivement de traiter la demande comme telle pour qu'il y ait une personne qui parle la langue X dans un endroit Y à oui. telle heure puis à tel endroit, à telle heure et à telle date.
Ah,
donc,
oui.
à ce moment-là, ça facilite la communication.
C'est une belle réalisation. Puis ça, c'est venu avec votre direction, hein, en 93.
Oui.
Vous avez débuté votre mandat de directrice générale.
Non, en 99, pardon.
OK.
Mais en 93, j'ai été embauchée par les services d'aide aux Canadiens pour mettre en place les outils de gestion de la bande d'interprètes.
D'accord.
Ce qui allait permettre de pouvoir gérer des ententes, faire des demandes d'interprètes, ouais. payer les interprètes aussi, facturer les organismes utilisateurs.
Mm-hmm.
La direction, je l'ai prise en décembre 99.
Parfait. Mais vous avez travaillé
oui.
avec cette idée et puis vous avez mis en place.
Oui.
OK. Puis, j'aimerais savoir, comme vous êtes arrivé en 86, est-ce que les défis sont les mêmes pour les nouveaux arrivants maintenant? Est-ce que ce seraient les mêmes défis que vous aviez connus, vous?
Je pense que oui. Ce qui varie maintenant, c'est probablement le niveau de sensibilisation de la population en général et que les événements critiques, même si c'est très triste, mais les guerres, quand ils existent ailleurs, font en sorte qu'on l'apprend dans les nouvelles aussi. Donc, quand il y a eu la guerre en Afghanistan, la guerre en Syrie, la guerre maintenant en Ukraine,
mm-hmm.
Ce sont des tristes événements, mais qui font en sorte que les médias peuvent raconter qu'est-ce que les gens vivent et pourquoi ils ont besoin de quitter cet environnement qui est nocif, qui est pas
oui.
bon pour la santé, pour
oui.
la sécurité. Donc, ça fait en sorte que les gens se questionnent, apprennent davantage aussi, se sensibilisent au fait de l'apport de l'immigration, que ce n'est pas nécessairement un fardeau,
mm-hmm.
l'immigration humanitaire. il y a beaucoup à apporter aussi à la société canadienne québécoise. C'est pas juste l'immigration économique. L'immigration économique, oui, elle apporte beaucoup, les travailleurs qualifiés, les travailleurs temporaires, mais l'immigration humanitaire, il y a sa part aussi, puis qu'il faut la reconnaître. Mm-hmm. Je pense que dans la population, on les voit plus, mm-hmm. de sorte que les difficultés se vivent peut-être avec un peu moins d'intensité, mais ce sont les mêmes défis d'apprendre la langue, okay. etc.
Donc, vous diriez que la mentalité des gens de la communauté d'accueil a quand même évolué, changé. Il y a plus d'ouverture,
oui.
plus de compréhension.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'ils ont plus de compréhension au niveau de différents types d'immigration aussi?
Je pense que oui, ouais. parce que grosso modo, si on peut juste différencier qu'il y a deux types d'immigration, l'immigration économique et l'immigration humanitaire, et que chacune a ses apports à oui. la société, oui. Au niveau démographique, au niveau linguistique, au niveau social, déjà là, à mon avis, c'est un niveau de compréhension, de base, qui permet justement d'établir un dialogue, mm-hmm. d'établir une relation entre les gens de différents horizons, de différentes provenances aussi, puis qu'on continue à construire ensemble pour que la société québécoise et canadienne devienne meilleure.
Oui, oui. Puis ce que des fois je déplore, qui est pas non plus connu des gens, c'est que lorsqu'il y a le regroupement de la famille et tout, c'est que la famille est responsable souvent financièrement des gens qui viennent.
Exactement.
Moi, j'ai eu le cas avec mes parents. Donc, les gens pensent que l'immigration arrive et s'assoient tout de suite sur le dos de l'État. Mais dans les regroupements familiaux, c'est la famille qui contribue à tout, là, à l'achat des vêtements, la nourriture.
Et vous avez tout à fait raison, Marjorie, mm-hmm. parce que ça fait partie de ce que je parle comme étant un apport aussi de l'immigration. Oui. Parce que quand les parrains, qu'ils soient des groupes ou des membres de la famille, des citoyens, font prendre en charge des membres de la famille, ils ne sont pas aux dépenses de l'État, ils
ne
sont pas aux dépenses de l'aide sociale. Donc, cette contribution, il faut la reconnaître comme oui. société aussi, puis la valoriser.
Tout à fait. Allez-y.
Oui. Non, permet de continuer le regroupement familial parce que c'est une sorte d'immigration qui va assurer la rétention puis l'intégration, à mon avis.
Oui, exactement. Donc, restez avec nous, chères auditrices et auditeurs. Nous poursuivrons après la pause.
Écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Je suis toujours en compagnie de Mercedes Orellana, directrice générale nouvellement à la retraite du service d'aide aux néo-canadiens. Donc, Mercedes, l'accueil des immigrants pendant la pandémie, c'est sûr, ça n'a pas cessé. Il y en a eu, mais je pense que ça a dû être beaucoup plus complexe pour vous. Comment vous avez géré ça au sein de l'organisation?
C'était un des souvenirs que j'oublierai pas mm-hmm. rapidement parce que ça a chambardé toutes nos façons de travailler. On venait de recevoir la dernière famille, je pense, au début du mois de mars, quand le décret du gouvernement a été nommé, qu'on allait en confinement. Toutes les règles au niveau de l'hébergement temporaire ont changé et on devait s'assurer, par exemple, avec le gouvernement fédéral, de faire des déclarations à tous les jours pour chacune des membres de la famille, respecter les consignes sanitaires. Oui. L'équipe était en télétravail, puis on a dû s'ajuster très rapidement parce qu'on n'était pas préparé à envoyer l'équipe de travail en télétravail, côté formation, côté technologie, équipement. Donc, les gens devaient communiquer, les employés devaient communiquer avec la famille aussi à distance. Mm-hmm. Tout c'était compliqué. Mais c'était une étape... où est-ce qu'on se serrait les coudes, où est-ce que comme équipe de travail, on a vu la résilience de l'équipe et j'ai vu aussi la capacité d'apprendre très rapidement, mais de se revirer sur une transcende, comme on dit. Mm-hmm. Moi, j'ai pas manqué au travail, puis il y avait une petite équipe aussi au travail pour être capable de faire le lien avec celle qui était en télétravail. Et ça a duré quelques mois. Au mois de juin, on est revenu au travail, mais encore là, ça s'est repris le télétravail pour certaines personnes de façon rotative aussi. Les familles y ont diminué beaucoup les arrivées à cause de la fermeture des frontières,
oui.
Mais ça s'est repris quand même aussi tranquillement. Et on devait respecter les consignes qui changeaient aussi, autant celles du gouvernement fédéral pour faire les tests, les dépistages, et avec la santé publique aussi au niveau provincial.
C'est
vraiment de toujours à l'affût des changements, puis de transmettre une information. On a traduit beaucoup d'informations parce que le gouvernement nous a dit, le ministère de l'Immigration, il souhaitait continuer à donner des services,
mm-hmm.
Beaucoup aussi aux familles qui étaient déjà ici. Et c'était de les aider à passer à travers la pandémie avec des documents traduits, avec de l'information, avec un soutien, que ça se faisait par téléphone, par visioconférence ou par courriel aussi.
Mm-hmm.
Moins en présentiel parce qu'on ne pouvait pas le donner, mais on a quand même, on s'est ajusté pour être capable de recevoir des documents quand les familles devaient faire des démarches aussi, puis il fallait s'assurer de les remettre. Donc, il y a des familles qui venaient remettre dans une boîte de documents, puis nous, on s'assurait de faire le pont avec les institutions, etc., jusqu'à ce que dernièrement, on a déjà quand même aussi un afflux plus important des gens qui viennent nous voir.
C'est ça. Parce qu'il y avait tout le changement organisationnel de la structure, de s'adapter à ça, mais il y avait aussi sûrement les familles qui venaient d'arriver avant la pandémie, donc psychologiquement qui étaient confinées. Vous avez dû donner aussi un support là-dessus?
Oui, c'est sûr. C'était l'équipe de travail au niveau de l'accueil, les intervenantes à l'accueil qui étaient sur la ligne de front, la première ligne, et qui les soutenaient, comme je disais, de différentes façons, beaucoup de téléphone, visioconférence. Mm-hmm. Pour leur expliquer, les rassurer, mais il faut aussi se rappeler que l'équipe de travail, elle aussi, elle vivait les contraintes du confinement,
c'est
parce que j'ai des intervenants qui avaient des jeunes enfants, qui n'avaient pas d'école, qui ne pouvaient pas aller à l'école ou qui devaient aller à l'école, mais à distance.
Oui, oui.
Donc, il fallait jongler avec la conciliation travail-famille en même temps aussi.
Mm-hmm.
Et rassurer les gens de qui on devait s'en occuper.
Mm-hmm. Ouais. Je vous amène vers les conflits armés, hein, comme ça a été le cas en ex-Yougoslavie ou comme c'est le cas actuellement en Ukraine. Est-ce que ça rend, selon vous, les communautés d'accueil encore plus aidantes à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des services que vous devez mettre en urgence pour répondre à cette urgence d'immigration?
Non. Ce qu'on fait beaucoup, c'est de l'information, de l'orientation pour diriger les personnes. Par exemple, si je pense à quelqu'un qui est très sensible à ce qui se passe, disons, en Afghanistan ou en Ukraine, et qui veut faire un don de vêtements ou un don d'articles ou un don de quelque chose, mais on va l'orienter vers la Croix-Rouge ou vers les organisations qui gèrent ce type de donations parce qu'on n'est pas équipé puis ça ne fait pas partie de notre mission. Mais on va diriger vers les organisations qui s'occupent de ça.
Mm-hmm.
Sauf si c'est un don en argent puis qu'ils veulent le donner à nous pour le donner à des familles, ça oui, c'est possible à travers soit le site internet ou avec de façon personnelle en s'adressant à l'organisation comme telle. De nouveaux services, c'était beaucoup... Pardon.
Juste parce que lorsqu'ils arrivent comme ça, souvent, ils arrivent groupés par centaines. Donc, une organisation comme vous, est-ce qu'elle doit réagir ou...
Parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de recevoir des centaines de personnes d'un seul coup. Ça, c'est une des différences versus Montréal
et
des villes comme Sherbrooke.
Mm-hmm.
C'est qu'on n'a pas le même bassin d'immigration, surtout des personnes réfugiées. Pris en charge par l'État ou parrainés qui arrivent d'un seul coup.
Okay.
C'est vraiment plus un phénomène à Montréal. Nous, on a des groupes importants, par exemple. Oui, ça peut être plusieurs familles, exemple trois familles qui est une vingtaine de personnes. Là, c'est sûr, ça demande la mécanique d'avoir demandé plus de bénévoles, plus d'intervenants pour mettre l'épaule à la rue, pour faire les premières démarches qui sont très serrées. Exemple, c'est l'hébergement temporaire, ensuite l'inscription au niveau des papiers du gouvernement, la demande de la sécurité de revenus, l'inscription des enfants à l'école, un bilan de santé avec la clinique des réfugiés. Mais on travaille en collaboration avec les institutions de santé ou scolaires aussi qui, elles ont leurs propres ressources aussi, puis qu'on se coordonne pour que les démarches se fassent une après l'autre.
OK. Mercedes, vous avez parlé, ça fait deux reprises, d'hébergement temporaire. Où ça se trouve? Comment vous faites ça?
Ouais. Parce que j'ai oublié effectivement de mentionner dans les services qu'on offre.
Oui.
On a un service d'hébergement temporaire, mais c'est seulement pour les personnes réfugiées prises en charge par l'État.
OK.
Parce qu'on a une entente avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Ça se trouve une partie dans les mêmes locaux du service d'aide aux Canadiens, mais de façon séparée.
OK. Vous avez comme alors des appartements?
Oui, exactement. D'accord. On a un hébergement temporaire dans lequel on va héberger les familles pendant quelques jours, mm-hmm. le temps qu'on puisse, ou le temps de la, de, comment on appelle, le délai dans lequel les personnes ne doivent pas nécessairement avoir de contact avec d'autres personnes.
Oui.
Ça permet aussi au personnel de faire les recherches d'appartements en même temps, mais on va commencer à donner les services seulement quand cette restriction se termine. Et on a aussi un autre local dans un autre endroit de la ville de Sherbrooke où est-ce qu'il y a un appartement, effectivement, pour héberger des familles à tour de rôle.
Okay.
Quand on trouve un appartement permanent, parce qu'on a déjà aidé la famille à trouver un bail, mm-hmm. Un appartement puis signer un bail, mm-hmm. la famille sort, donc on laisse l'espace disponible pour la prochaine famille qui va arriver.
Okay.
Sinon, il y a des motels aussi, il y a des endroits d'hébergement où est-ce qu'on a des ententes pour pouvoir héberger les familles quand on en a plusieurs en même temps.
OK. Vous avez plusieurs appartements?
On en a un appartement, plus celui du centre, ça fait deux, plus dans un motel où est-ce qu'il y a plusieurs chambres, c'est possible, okay. effectivement, il y a une quarantaine de places disponibles. Sinon, c'est pour les réfugiés qui sont parrainés par la famille, mm-hmm. comme vous l'avez mentionné, ils sont hébergés chez la famille
oui.
Pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils trouvent un appartement de façon permanente.
Oui, c'est ça. Mercedes, je vous dire que vous êtes tellement passionnée encore. Et comme je disais, Mercedes Orellana est directrice générale nouvellement à la retraite du service d'aide aux Néo-Canadiens. Mais je n'ai pas l'impression que vous êtes déjà à la retraite parce que vous avez encore tous ces dossiers-là sur le bout des doigts. Hein, vous les connaissez. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez encore dans l'action? C'est une jeune retraite? Mais est-ce que vous sentez encore dans l'action?
Oui, parce que c'est un centre d'intérêt. L'immigration, oui. pour moi, c'est un, je pense, c'est un domaine que j'ai découvert ici au Québec. J'ai un intérêt aussi pour la formation ou pour des activités d'animation, pour mm-hmm. Parler de ce que je connais aussi. Donc, oui. J'ai déjà été interpellée par d'autres organisations, soit pour donner une conférence ou préparer des formations. Je pense que ma retraite va être quand même une retraite qui va avoir un certain niveau d'action, pas avec mm-hmm. les services d'aide aux Néo-Canadiens, ou peut-être avec les services d'aide aux Néo-Canadiens aussi, mais plus dans mon rôle de direction, parce qu'il y a déjà la nouvelle directrice, Mme oui. Manon Couture, qui assure la relève, effectivement, dans l'organisation, mais avec un autre chapeau.
Oui, oui. Est-ce que c'était quelqu'un de l'interne au niveau de la direction?
Non.
Ça a été, OK, une nouvelle...
De l'externe. Le conseil d'administration a fait tous les recrutements. Il y avait un comité des ressources humaines qui s'est occupé de faire cet élément-là. Puis je dois remercier aussi autant la présidente que le conseil d'administration, Mme Lucie Letang,
oui.
parce qu'ils ont pris le temps, quand j'ai annoncé quand est-ce que j'allais prendre ma retraite, de préparer le recrutement
oui.
accompagné d'une personne externe. Et le processus s'est fait sans mon implication,
mm-hmm.
mais ça a donné l'occasion que Manon, quand elle est rentrée en poste, elle est rentrée le 8 janvier, elle a pris la direction seulement le 15 décembre.
Oui.
J'étais directrice jusqu'au 15 décembre, mais j'ai resté avec l'organisation jusqu'au 28 janvier pour faire les passages des
oui.
dossiers, les passages d'informations. Cette étape-là, je pense que c'est très important, puis c'est pas nécessairement tout le temps de façon systématique, mais je pense que...
C'est ça. Non, c'est très important, surtout mm. quand une direction a eu... elle a longtemps, donc cette passation est importante. Puis, est-ce qu'il y a des actions que vous auriez aimé faire, mais que vous n'avez pas eu le temps de concrétiser, ou bien que vous n'avez pas eu non plus les finances à ce moment-là pour le faire? Est-ce qu'il y a des actions que vous dites, j'aurais aimé... poser cette action ou bien ajouter ce service?
Je me suis organisée pour qu'on les fasse, non.
Ah oui? C'est vrai?
Oui, parce que le dernier gros projet, je dirais, c'était l'agrandissement de nos locaux.
Oui.
Et on a commencé un grand chantier en pleine pandémie, en septembre 2020.
Mm-hmm.
On a refait les deux étages de la bâtisse aussi.
Oui.
À 85%, 90%, je pense, le travail était fait avant quand j'ai fini, c'est au mois de janvier dernier.
Oui, oui.
Et la dernière étape a été faite. J'ai visité les locaux dernièrement, puis c'est ce qui manquait, ça a été fait.
Oui.
Tout était là pour que, effectivement, le travail se soit fait, puis que l'équipe ait, je pense, des locaux, de nouveaux locaux mm-hmm. ou rafraîchis, une salle à dîner qui va être plus conviviale aussi. Un endroit où est-ce que ça va faire du bien de recevoir les personnes qui arrivent avec des problèmes, avec des peines, avec de souffrance, mais qui vont avoir un lieu accueillant aussi pour pouvoir les aider.
Donc, pour vous, c'est mission accomplie.
Oui, je parle avec l'esprit tranquille.
Ouais. Merci. Alors, nous allons écouter une chanson encore choisie par Mercedes et nous revenons tout de suite après. Une chanson qui amène de la joie dans nos cœurs. Puis on dansait Alors, je suis un petit peu essoufflée. Je continue, je suis de retour avec Mercedes Orellana, directrice générale, nouvellement à la retraite du service d'aide aux Néo-Canadiens. Mercedes, j'ai vu que vous avez eu quand même plusieurs reconnaissances de prix, tant par les députés, la ville de Sherbrooke. Qu'est-ce que vous ressentez avec autant de reconnaissances?
De la gratitude, je dirais, en premier lieu, pour cette marque de reconnaissance. Effectivement, je pense que les personnes qui ont une vocation politique portent aussi parfois des messages, puis ça fait chaud au cœur d'avoir cette marque de reconnaissance, mais je sais que je le reçois avec beaucoup d'humilité, mm-hmm. Parce que je suis consciente que le travail au niveau de la direction, ça ne se fait pas tout seul.
Oui.
C'est vraiment un travail d'équipe et avec des collègues aussi qui ont été partie prenante, je dirais, de tout ce qu'on a pu accomplir, réussir, atteindre nos objectifs. Donc, j'ai vraiment de la gratitude et de la reconnaissance en même temps aussi.
Oui. Puis vous avez été, comme vous dites, très encadré avec une belle équipe aussi qui a suivi aussi vos idées, vos orientations. Donc, tous ces gens-là font partie aussi de votre succès.
Oui, et comme je le disais, quand j'ai reçu la médaille de Mme Brière, la députée de Sherbrooke, libérale, je remercie aussi les membres du conseil d'administration. Quand je parle d'équipe, mm-hmm. c'est pas seulement les collègues de travail, c'est aussi les bénévoles. Les bénévoles, c'est le conseil d'administration parce que j'étais l'employée du conseil d'administration. Mm-hmm. Mais s'ils n'auraient pas cru dans les idées, dans les propositions, dans les recommandations que je faisais, il y a peut-être des choses qu'effectivement, ça ne s'était pas concrétisé au service de nos Canadiens, mais j'ai toujours été appuyée, j'ai toujours été écoutée aussi. Et ça, c'est vraiment une autre façon de reconnaître la vision du gestionnaire aussi.
Mm-hmm. Lorsque je regarde votre parcours, Mercedes, vous avez un super parcours, beaucoup d'acquis, beaucoup d'actions et aussi de militantes. Donc souvent, ce sont des parcours qui amènent vers la politique. Est-ce que ça vous intéresse? Puis j'ose vous demander, est-ce que vous avez déjà été courtisée?
Non, je n'ai pas été courtisée. Je ne suis pas certaine que ça m'intéresse. Je pense avoir fait de la politique à ma façon.
Oui.
Même si j'ai travaillé dans un organisme qui est apolitique et irreligieux,
oui.
Parce qu'on ne veut pas prendre position par rapport à aucune religion ni à aucune formation politique, justement parce qu'on reçoit des gens qui viennent de tous les horizons. Puis qui, c'est ça. Je n'ai jamais pris de position politique à ce niveau-là. Mais je pense que il faut être prêt à travailler très fort quand on s'implique au niveau politique. Moi, mon implication, c'était vraiment pour défendre les droits des personnes qu'on a accueillies, pour dire aux gens qui avaient le pouvoir de changer des choses, regardez, voici la problématique, voici ce que la personne vit, voici les conséquences. Vous avez une porte que moi, j'en ai pas, mais je vous explique pour que vous soyez capable à votre niveau de la porter plus loin, de parler avec les personnes qui des droits qui peuvent changer les choses.
Mm-hmm.
Puis je pense que parfois, les petits pas peuvent donner de bons résultats.
Oui.
C'est important. À ce niveau-là, la politique, oui, mm-hmm. je l'apprécie, mais participer à une formation politique, non, j'envisage pas ça nécessairement.
Oui, parce que l'engagement social, vous êtes une femme d'engagement social, donc vous sentez que vous avez comme posé des actions qui ont peut-être amené à des décisions politiques, parce que lorsqu'on parle de l'immigration, les choses ont changé aussi. Hein? Lorsqu'on parle de il y a 20 ans et maintenant, donc beaucoup de politiques ont été améliorées.
Oui, parce que notre vis-à-vis principal, c'est au niveau de l'immigration au Québec. J'ai participé aussi à la présentation des mémoires quand il était question, par exemple, des niveaux d'immigration triennale. Faut donner son avis sur le document de consultation. J'ai participé à des comités aussi qui étaient en lien avec les hautes instances du ministère pour parler des politiques, des programmes, des mesures aussi, mm-hmm. qui ont un impact sur le terrain quand on reçoit les familles au quotidien. Et c'est à ce niveau-là que moi, je pense avoir apporté ma vision, ma perception de la problématique est d'apporter des pistes de solutions aussi, oui. Sachant que la réponse finale ne m'appartient pas, mais au moins si je peux faciliter la prise de décision, la compréhension du problème, la définition du défi aussi, mm-hmm. que les gens traversent, parce que je suis capable de me mettre dans les souliers de la personne qui vit cette difficulté, l'ayant oui. vécu d'une certaine façon. Je pense que c'est... Je suis fière d'avoir rapporté ça aussi comme réflexion. Il y a une personne qui m'a dit à un moment donné que j'étais sympathiquement coriace.
Ah oui! Oui, tout à fait.
Dans ma façon oui. de pouvoir peut-être revendiquer des choses
oui,
aussi.
Oui, oui, oui. Puis, Mercedes, on est en 2022, donc est-ce que, selon vous, il y a des actions que le gouvernement peut encore apporter pour améliorer des solutions, pour améliorer encore mieux l'accueil de toutes sortes d'immigration?
Ah oui, 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 tout à fait. Pas juste l'accueil, mais aussi l'intégration, qui est un mm-hmm. grand morceau. L'accueil, l'intégration, oui. elle s'étend beaucoup plus dans le temps, puis les défis se rencontrent à différents moments de la vie de la personne. Mm-hmm. Si j'ai juste une à nommer, c'est toute la question, les problématiques qui entourent l'obtention du permis de conduire pour les personnes allophones.
Ah oui, okay.
Pour les personnes qui parlent français, ce n'est pas un problème. Pour les personnes qui arrivent avec un permis international, ce n'est pas un problème. Mais il y a des personnes qui vivent beaucoup de difficultés pour obtenir leur permis de conduire ici au Québec, qui échouent plusieurs fois aussi. Mm-hmm. Et là, je pense qu'il y a tellement un travail de coordination, de collaboration qui peut se faire au niveau ministériel pour faciliter... que les personnes qui sont à l'extérieur de Montréal, parce qu'à Montréal, ça se passe très bien. Vous allez juste mm-hmm. à la SAAQ pour passer l'examen, puis oui. c'est fait. Mais quand vous venez de Sherbrooke, par exemple, ou du Québec, de l'Ottawa, etc., puis que vous devez venir à Montréal pour passer votre
examen.
Oui. Si vous l'échouez, vous avez dépensé dans les frais de transport pour venir.
C'est ça.
Une fois, deux fois, trois fois. Je pense qu'il y a la possibilité de peut-être développer des services satellite, même si mm-hmm. de temps en temps avec une programmation, une fois c'est à Sherbrooke, une autre fois à Québec, une autre fois à Ottawa, ça donnerait l'occasion à des personnes immigrantes allophones qui oui. habitent dans ces lieux-là de passer cet examen sans entamer des frais supplémentaires. Parce que c'est le temps, il y a des gens qui perdent des journées d'emploi aussi pour pouvoir faire cette démarche, oui. puis avoir un permis de conduire, puis on sait que l'auto... Ça facilite tellement dans des villes où est-ce qu'il n'y a pas de transport en commun, où il y en a moins, l'offre est moins grande mm-hmm. qu'ici à Montréal. Alors, des fois, c'est une petite solution, mais qui peuvent tellement faire du bien puis changer la vie des gens.
C'est ça. Donc, finalement, le problème n'est pas simplement au niveau de la langue, une non. mauvaise compréhension de l'examen. C'est les procédures qui sont établies, c'est les façons qui sont établies.
C'est qu'est-ce que l'institution publique gouvernementale
oui.
offre comme possibilité à la population qui est concentrée, oui, majoritairement à Montréal, mais mm-hmm. il y en a des gens qui viennent d'ailleurs.
D'ailleurs, ben oui.
D'ailleurs que Montréal.
J'ai une petite curiosité. Est-ce qu'ils peuvent se faire accompagner d'interprètes pour faire passer
oui.
l'examen?
Ils vont payer à ses frais.
OK.
Ils vont payer les frais d'un interprète, mais c'est possible dans plusieurs langues. Oui. Mm-hmm.
Donc, en plus des frais de déplacement, de
il y a des frais d'interprétariat.
Des frais d'interprète aussi.
Et les frais de l'examen.
Aussi. Ah ouais, je comprends. Est-ce qu'il y avait d'autres mesures?
Sûrement aussi, effectivement, au niveau de le médecin de famille. Je vais radoter, oui. mais oui. c'est exactement le même problème qu'avec beaucoup de personnes d'origine québécoise qui mm-hmm. n'ont pas de médecin de famille. Si à la place, on n'a pas de médecin de famille, est-ce qu'il y a une option temporaire, mm-hmm. Intermédiaire aussi, pour pouvoir aider les gens qui n'ont pas de médecin de famille?
Oui.
À Sherbrooke, on avait une clinique sans rendez-vous,
oui.
fermée. Il n'y a plus de clinique de rendez-vous. Où est-ce que les gens doivent s'en aller s'il y a un problème d'urgence? À l'urgence, à l'hôpital. Ils nous disent qu'il ne faut pas aller à l'urgence pour ne pas engorger le système.
Mm-hmm.
Mais s'il n'y en a pas, puis la personne, elle pense qu'il y a quelque chose de grave qui est en train d'arriver avec sa santé. S'il n'y a pas d'option intermédiaire, mais on va aller engorger le système parce Exactement. Que la personne, elle veut juste ouais. se sentir avoir de l'aide, finalement.
Oui, mais c'est un problème tellement... plus large même qu'au niveau de simplement de l'immigration.
Tout à fait.
Il nous reste quelques minutes, Mercedes. J'aimerais vous poser la question. Comment envisagez-vous les prochaines années pour vous?
Je vais faire des choses que j'ai mis de côté.
Oui.
Parce que je pense que c'est au niveau social. Évidemment, il y a un réseau que je vais continuer, mais qu'il faut nourrir, qu'il faut alimenter aussi.
Mm-hmm.
Faire des activités que j'avais probablement fait moins pendant ma vie active aussi, comme faire plus de sport.
Ah oui?
Oui. Certaines activités que l'été mm-hmm. permet aussi. Évidemment, avec ma famille, passer plus de temps avec mes petits-enfants,
oui.
Qui sont grands maintenant, mais qui ont encore la chance de... que je peux avoir la chance de pouvoir continuer à faire avec vous plus mm-hmm. souvent. Prendre des cours aussi sur des sujets qui m'intéressent, j'ai déjà commencé. prendre des contrats qui m'intéressent aussi.
Oui, certains contrats, vous êtes ouverte à prendre des contrats.
Pas à temps plein. Ouais, je ne veux pas travailler avec le même rythme que j'avais.
Oui.
Mais à l'occasion, de façon ponctuelle, je ne suis pas fermée à cette idée-là. Puis je pense que faire la danse, mais pas de cours de danse, mais faire la danse quand ça m'étend, puis écouter la musique.
Ah, ben c'est bien.
Vivre de façon plus douce, plus légère.
Ben c'est super. Puis toute la famille vit à Sherbrooke, les
enfants. Oui, j'ai la chance vraiment d'avoir mes enfants, leurs enfants, mon beau-frère, sa famille aussi, ma mère.
Toute la famille est là.
Oui.
Super. Donc, c'est sur ces belles paroles, nous allons terminer. Donc, merci, Mercedes Orellana, d'avoir accepté notre invitation. Puis, félicitations pour le travail que vous avez accompli. Vous avez aidé des générations d'immigrants à bâtir leur nouveau chez-soi dans la ville de Sherbrooke. Alors, je rappelle que mon invité, Mercedes Orellana, est directrice générale qui vient de prendre sa retraite après 28 ans, même si ça paraît pas, du service d'aide aux Néo-Canadiens situé à Sherbrooke. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous dit à la semaine prochaine.